Vous proposer une lecture biblique encore avant d'entamer l'étude de notre sujet. C'est un passage qui nous mettra, je pense, dans la perspective voulue, non seulement pour ce matin, mais pour tout le travail que nous devons faire ensemble sur le ministère et les ministères de l'Église. Je lis l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 1 à 16. Éphésiens 4, 1 à 16. Selon mon habitude invétérée, je ferai quelques petites remarques au fil de la lecture sur la traduction. Ceux qui me connaissent savent mon goût pour ces petites fioritures. Elles peuvent, je crois, être utiles à la compréhension. Donc, Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voilà mon petit commentaire. C'est qu'il y a cette fois l'accent sur un élément d'unification, cette fois un seul, ou une seule, ce qui sans doute correspond à une intention symbolisme numérique de la part de l'apôtre, et que c'est sept éléments qui sont mentionnés, les sept piliers de l'union des chrétiens dans le corps de l'Église, sont répartis en trois articles selon un schéma trinitaire. C'est très intéressant à relever. Vous avez trois termes qui correspondent à l'esprit, un seul corps et un seul esprit, les deux étant étroitement associés. Corps et esprit sont une paire conceptuelle lorsqu'on analyse l'individu humain, mais ici il s'agit du corps qu'est l'Église et du Saint-Esprit qui l'unifie, un seul corps, un seul esprit. Et ce qui est associé, c'est la vocation de l'espérance ou l'espérance qui correspond à la vocation chrétienne. Sans doute parce que le Saint-Esprit nous est présenté comme les arts, les prémices, l'acompte de la plénitude à venir. Il est en nous le principe de l'anticipation, de l'aboutissement de tout le processus de notre salut. C'est pour ça que l'espérance est particulièrement rattachée dans cette répartition des versets au Saint-Esprit. Puis ensuite, trois termes qui correspondent à la deuxième personne de la Trinité, à la personne du Fils. Un seul Seigneur, c'est lui bien sûr, une seule foi. La foi est une foi en Jésus-Christ. Un seul baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience qui nous enrôle dans la milice du Christ, comme disaient les chrétiens du IIe siècle, qui est l'engagement à la suite du Seigneur, public, visible. Le baptême appartient avec la foi. On peut donner aussi le sens objectif de ce qui est cru au mot foi ici, à la dimension objective de l'œuvre de la grâce, de ce qui assure l'union de tous les chrétiens dans l'Église. Et puis le dernier terme, le septième, évoque le Père, puisque le terme de Père est employé, et il est beaucoup plus développé, ce qui fait qu'il récapitule trinitairement l'ensemble de ce qui vient d'être dit. Car le Père, qui est au-dessus de tous, est aussi parmi tous. On pourrait peut-être aussi traduire par tous. L'idée d'instrumentalité n'est pas exclue, c'est l'usage normal de la préposition. C'est peut-être simplement local, mais aussi instrumental. Il agit par le moyen de tous. cela correspond à la mission du Fils, qui est descendu parmi nous, qui prolonge son œuvre par tous ses serviteurs, ses disciples, ceux qui le suivent, et puis qui est en tous, alors cela, ça correspond à la mission du Saint-Esprit qui réside en nous. Vous voyez, la composition de cet ensemble, qui ne touche peut-être pas très directement notre sujet, est tellement belle, tellement intéressante à relever, tellement nourrissante pour la réflexion que je voulais vous en faire part. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Le mot « mesure » peut se comprendre de deux façons. La mesure mesurante ou la mesure mesurée. La mesure par laquelle on fait les mesures, la règle, si vous voulez, de la référence, ou bien la portion qui est attribuée. C'est le premier des deux sens qui prédomine dans l'usage grec, et je crois qu'il est meilleur ici que l'autre. Alors je le souligne parce que notre habitude de lecteur français, c'est de penser plutôt la mesure, une mesure, deux mesures, la portion qui m'échoit. Or, il est plus probable, à mon avis, c'est mon jugement exégétique, que nous avons ici l'idée de la parfaite mesure par laquelle le Christ fait la répartition et assure une harmonie dans la diversité. Chacun à sa place, selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Il s'agit d'une citation du psaume 68, et il faut reconnaître, je ne vais pas entrer dans le détail, que lorsqu'on compare le verset dans le psaume et son usage par l'apôtre Paul, on est d'abord un peu surpris. Il y a un certain écart. Le psaume est un psaume qui célèbre, semble-t-il, le transfert de l'arche et l'action victorieuse du Seigneur en faveur de son peuple. Il semble qu'à la fin du verset dans le psaume, il soit question de dons que le Seigneur a reçus des humains, comme le triomphateur qu'il est. Alors, on se dit, mais Paul a changé les choses. Je crois qu'il les a, si vous voulez, prolongés, que cela correspond à une réflexion légitime que nous avons à suivre nous-mêmes dans notre propre pensée sur ce qui est dit dans le psaume. Que ce n'est pas simplement le texte du psaume. C'est le texte du psaume exploité théologiquement. Celui qui, en fait, est annoncé d'avance à propos du mouvement de l'Arche et de ces événements de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus, Dieu avec nous. Et s'il prend des dons de l'humanité, c'est pour les rendre en quelque sorte. Les hommes qu'il délivre et qui deviennent siens, du même coup qu'il délivre de la puissance de l'adversaire, il en fait des dons qu'il distribue à son Église. Voilà la perspective, très vite dit. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Là, c'est un raisonnement exégétique de l'apôtre Paul. Il nous donne ses raisons pour utiliser le psaume comme il le fait en l'appliquant à Jésus-Christ. Le psaume dit « il est monté ». Il dit ça de l'Éternel. Adonai, Yahvé. Mais Paul dit, mais s'il est monté, c'est qu'il est descendu. Et où voyons-nous l'Éternel descendu? En Jésus-Christ. Lui qui est remonté glorieusement, comme vous le savez, c'est lui qui est descendu. Donc nous pouvons appliquer ce psaume à Jésus. Les régions inférieures de la terre, ça veut dire la terre comme région en dessous du ciel. S'il est monté, c'est qu'il était descendu sur la terre. Voilà comment, je vous suggère en tout cas, de comprendre ces versets qui soulignent en outre l'exaltation du Seigneur Jésus qui, étant descendu, ayant remporté la victoire de notre salut, s'élève maintenant triomphateur et règne comme le Seigneur de tout l'univers. Avec ce thème extrêmement intéressant, qui, c'est un point de théologie un peu délicat, mais je le mentionne aussi, joue sur les deux natures du Christ. Il est monté, il est descendu, il est monté au ciel, il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Selon sa nature humaine, il a un corps, il n'est pas présent en tout lieu semblablement, mais selon sa nature divine, il remplit toutes choses. Il est présent partout. Le paradoxe, il est monté et il remplit toutes choses, l'univers entier. C'est la perspective dans laquelle nous avons à voir tout ce qui est dit des ministères dans les versets qui suivent. C'est lui qui a donné, reprise du verbe donner, à propos des dons faits aux hommes, par celui qui s'élève dans la gloire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'y a pas d'article séparé pour ces deux termes dans l'original, et cela veut dire normalement, la règle n'est pas d'une rigidité entière, il y a parfois des petites exceptions et dérogations, mais la règle en principe en grec veut que dans pareil cas, ce soient les mêmes personnes qui soient en cause. Ceux qui sont appelés pasteurs sont ceux qui sont appelés docteurs. Ceux qui sont appelés docteurs sont ceux qui sont appelés pasteurs. Dans ce verset. C'est les pasteurs et docteurs, si vous préférez. Pour le perfectionnement des saints. Alors le mot saint, je pense qu'il n'a pas besoin d'explication parmi nous, bien sûr. Nous savons qu'il ne s'agit pas de ceux du calendrier, forcément. Le perfectionnement, là c'est un terme de sens assez large et diversifié dans le Nouveau Testament. Ça peut vouloir dire la réparation aussi. C'est tout ce qui équipe pour un bon service. Donc ce n'est pas l'idée d'atteindre la perfection. C'est plutôt le bon entraînement pour toutes les tâches à accomplir, qu'il n'y ait pas de manque, de déficience marquée. C'est là le terme qui est employé dans l'original. Et ça pourrait vouloir dire carrément la réparation, si réparation est nécessaire, la réparation des saints, ce qui, comme nous savons, n'est pas toujours inutile. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. L'œuvre du service était traduite autrefois par second l'œuvre du ministère. Il n'y a pas d'article en grec, mais il n'y a pas de nuance particulière qui s'attache à cette absence d'article, me semble-t-il, ici. Je ferai référence à ce verset dans quelques instants, mais il est assez net qu'il s'agit du ministère commun de tous ces saints qui ont besoin d'être formés, équipés, entraînés, réparés pour remplir ce ministère qui correspond à l'édification du corps du Christ, la construction de ce corps. Avec le mot édification, d'ailleurs, nous avons mélange de deux métaphores. L'apôtre Paul mélange facilement les métaphores. C'est moins gênant sans doute du point de vue du goût littéraire en grec qu'en français. Alors l'édification, c'est l'image de la maison, et le corps, bien sûr, c'est une image distincte. Mais Paul les associe très facilement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Là aussi, le mot mesure me semble avoir plutôt le sens de mesure mesurante. Mais cette fois, c'est le Christ qui est la règle selon laquelle toutes les mesures peuvent être prises. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Et le mot enfant ici, ce n'est pas le mot païs ou païdion qui désigne des enfants déjà d'un certain âge. C'est un mot pour désigner les petits enfants. Bon, jusqu'à 3-4 ans. Mais ce sont les petits enfants particulièrement vulnérables. Plus des enfants flottant
et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, disant la vérité avec amour, ce n'est pas la traduction la plus proche de l'ordre des mots de l'original, parce que nous ne peut pas être tout à fait proche. Le mot est bâti sur le terme vérité, c'est le verbe qui correspond. C'est comme s'il y avait un verbe vérité, ER, en français. Et véritant dans l'amour. Alors c'est dire la vérité, mais c'est plus que dire la vérité. C'est être dans la vérité, marcher dans la vérité, être vrai quant à l'amour, être vrai en ayant en même temps de l'amour. Tout ça, semble-t-il, peut être inclus dans l'expression véritant dans l'amour. Et le texte ensuite donc utilise le mot de chef pour le Christ vers lequel ou en lequel, mais c'est la particule qui indique un mouvement. Nous avons à croître. Je signale qu'il y a un débat contemporain à propos de ce mot chef. Nous toucherons peut-être le sujet tout à la fin si nous avons le temps. Certains, essentiellement des féministes, aujourd'hui, prétendent que le mot « tête » qui est employé ici n'a pas le sens de « chef », qu'il n'est pas employé dans le Nouveau Testament pour évoquer l'autorité. Et ils critiquent la traduction « chef », qui est la traduction ancienne, habituelle, et qui est encore retenue dans la Bible de la Colombe. Je ne pense pas que cette thèse nouvelle soit juste. Je crois avoir étudié la chose assez en détail, et je vous donne mon avis à ce propos. Je crois que le sens de chef doit être maintenu, mais je signale quand même qu'il y a contestation à l'heure actuelle. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors ici, d'abord l'accent sur la cohérence, sur les liens. C'est déjà bien perceptible dans la traduction française, bien ordonné et cohérent, mais dans l'original, vous avez des mots composés qui commencent par la même préposition, sun armalogoumenon, sum bibazomenon, et qui mettent en valeur encore davantage cette idée qu'il s'agit vraiment de bien attacher les unes aux autres, toutes les parties du corps, qu'elles ne puissent pas éventuellement se prétendre indépendantes l'une ou l'autre, vouloir se comporter de manière autonome. Vraiment un très très fort accent sur ces liens. Et une évocation des jointures, des articulations qui assurent cette unité, mais qui en même temps aussi, semble-t-il, servent à la nourriture du corps et permettent sa croissance. Que sont ces jointures? Beaucoup d'exégètes, et déjà Calvin par exemple, reconnaissent que ce sont les ministères évoqués plus haut qui sont sans doute ces jointures dans l'image que Paul a en tête. Ce sont ces jointures qui permettent au corps de fonctionner comme un tout cohérent et de croître lui-même, de s'édifier, là encore, selon la mesure mesurante qui est celle du Christ lui-même. Voilà ce passage auquel nous aurons l'occasion de penser plus d'une fois. Et je passe maintenant à l'exposé que j'ai préparé, dont vous avez donc le plan, un plan plus détaillé que d'autres années. C'est arrivé comme ça. J'ai finalement fait 6 pages en incluant la bibliographie de Canva, donc c'est assez détaillé, que vous avez donc dans la deuxième partie de votre petit fascicule, avant les pages que Monsieur Nicole a écrites. Donc il y a 5 pages de Canva et puis 1 page de bibliographie pour moi. Le détail du canevas me fournira une excuse si je ne réussis pas à terminer dans les temps, chaque fois, l'exposé que j'ai l'intention de faire. Bon, mais vous aurez quand même par écrit ce qui aura manqué par oral. Nous allons nous en tirer comme ça, parce que nous touchons tellement de sujets que je suis à peu près sûr d'avance de ne pas avoir le temps de tout vous dire. Je commence par évoquer l'ambiguïté du titre que j'ai choisi, que vous avez lu dans le petit dépliant de présentation de l'université d'été, « Le ministère et les ministères de l'Église ». L'ambiguïté n'est pas dans le passage du singulier au pluriel. En fait, le ministère, les ministères, j'ai voulu dire que c'était un peu égal. Qu'on dise le ministère, mais il est divers, ou les ministères, mais ils doivent fonctionner de manière unie, bon, c'est pas ça qui est important. L'ambiguïté, elle est dans la relation que le « de », les ministères de l'Église, implique. Relation qu'on appellerait de génitif, dans les langues à déclinaison, en tout cas, en grec ou en latin. Comment comprendre ce « de » S'agit-il de ce qu'on appelle un génitif subjectif ou d'un génitif objectif? Le service, mon ministère signifie service, est-il celui que l'Église remplit? L'Église est le sujet du verbe servir. Ou le service en cause est-il le ministère dont l'Église est l'objet, la bénéficiaire? L'Église est servie par les ministères. Le « de », comme le génitif aussi dans les langues qui ont des cas, des déclinaisons, le « de » est ambigu. On peut comprendre des deux façons. Et en fait, je vous propose de comprendre des deux façons à la fois. Voilà, de l'ambiguïté dans le titre dont je joue. Parce qu'il me semble qu'il y a un lien entre le ministère au sens subjectif et le ministère au sens objectif de l'Église. Si l'Église a une tâche, un ministère à remplir dans le monde, Dieu, le Seigneur glorifié, lui donne les ministères qui sont attribués aux uns et aux autres pour que l'Église accomplisse sa mission, sa tâche. Donc il y a un lien très étroit. Ce qui est premier, c'est le ministère que l'Église a à remplir, mais ce qui en dépend et qui permet l'accomplissement de la tâche de l'Église, ce sont les ministères, ou le ministère diversifié, qui sont institués dans l'Église, où certaines personnes se voient attribuer des fonctions particulières. Il me semble que parfois on discute des ministères au sens de l'Église au sens objectif, deuxième sens, en perdant un peu de vue la perspective globale de la mission de l'Église. Et c'est pourquoi je me suis dit, en préparant cette portion de l'université d'été, qu'il serait avantageux pour nous de jouer les deux sens possibles et de d'abord tracer les perspectives d'ensemble concernant la mission de l'Église dans le monde, pour que nous puissions évaluer ensuite, interpréter ce qui est dit des divers ministères de la manière la plus conforme à la pensée de Dieu. Alors nous n'allons pas y passer beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est un immense sujet en lui-même, donc je vais me contenter de ce matin, de la première étude, pour cette perspective du ministère de l'Église au sens subjectif de la tâche, la mission de l'Église. Et puis encore une autre raison pourquoi il convient que je ne m'attarde pas beaucoup, me semble-t-il, c'est que M. Blau, dans la partie de l'université d'été qui lui est assignée, va aussi parler de l'Église dans le monde, de son rôle. Donc je pense qu'il le fera d'une manière qui sera tout à fait complémentaire et sans grand chevauchement avec ce que je vais dire. Mais donc c'est une raison pour moi de ne pas m'étendre beaucoup. Mais quand même, commencez par là. Je crois que c'est pour nous avantageux. J'ai été tenté de prendre pour guide, à la fois dans la première étude et pour la suite, le grand schéma des trois offices ou ministères du Christ lui-même. Le triple ministère, ou les trois ministères, comme on veut, prophétique, sacerdotal et royal. C'est extrêmement tentant, avoir un schéma triadique comme ça, ça plaît à l'esprit, et puis on se dit, mais c'est magnifique, voilà les trois offices du Christ, qui est prophète, prêtre et roi. L'Église est envoyée dans le monde dans le prolongement de l'œuvre du Fils, de son Seigneur, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc elle est aussi investie d'un triple office, d'un triple ministère prophétique, sacerdotal et royal. Et on peut distinguer parmi les ministères qui sont institués au titre des instruments de la grande tâche accomplie par l'Église, on peut distinguer aussi ce qui se rapprocherait d'un ministère prophétique, un ministère sacerdotal, un ministère royal. C'est très très tentant, et en fait la théologie catholique suit cette voie assez souvent. Et les trois grands pouvoirs de la hiérarchie ecclésiastique dans la théologie romaine sont rattachés aux trois grands offices. Le magistère, qui est la fonction d'enseignement, de définition de ce qu'il faut croire, de ce qu'il faut prêcher, etc., est rattaché à l'office prophétique. Le pouvoir dit d'ordre, mais au sens particulier de la théologie romaine, correspondant au sacrement de l'ordre, c'est le pouvoir sacerdotal. Le sacrement de l'ordre ou ordination permet au prêtre d'offrir le sacrifice non sanglant de la messe. C'est une œuvre sacerdotale. Donc vous avez le pouvoir de l'ordre qui est rattaché à l'office sacerdotal, et puis le pouvoir de juridiction, de gouvernement, avec tout le droit canon comme législation élaborée et appliquée, correspond au pouvoir royal, au ministère royal. Donc il y a des théologiens très compétents qui ont utilisé ce schéma. Le fait que dans le catholicisme il ait été développé, comme je viens de le dire, nous avertit cependant, en tout cas, m'avertit personnellement, moi qui ne suis pas catholique romain, des dangers possibles de cette procédure. Elle est tentante, mais elle me semble pouvoir favoriser des glissements et des déformations. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui s'applique un peu mécaniquement. Toc, 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 trois offices, bon. En fait, si on les étudie en Jésus-Christ lui-même, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de trois offices juxtaposés, que les relations entre les trois sont complexes. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le cours de Christologie, le fac étude de Christologie, à la fin du deuxième volume, et les conséquences pour la doctrine de l'Église et pour la doctrine des ministères suivent. Si on n'a pas bien repéré que ce n'est pas juste trois ministères juxtaposés, mais qu'ils ont des articulations un peu étonnantes parfois entre eux, on se trompe ensuite, on déforme. Donc mieux vaut prendre un peu de recul. Et puis d'autre part, ce qui plaît beaucoup aux théologiens catholiques romains, l'idée que l'Église continue le Christ. On parle assez souvent d'incarnation continuée. C'est une idée, là aussi, assez dangereuse. Elle n'est pas dépourvue de toute validité, selon certains aspects. Il y a un prolongement. Mais la figure du rapport n'est pas celui d'une ligne droite qui continue comme ça dans les perspectives du Nouveau Testament. L'œuvre de Jésus-Christ, une fois pour toutes, tout accompli, et puis, ensuite, une phase tout à fait distincte d'application où l'Église reçoit et annonce pour que le Saint-Esprit applique. C'est pas le schéma d'une incarnation qui continuerait, comme en général la théologie catholique, en tout cas traditionnelle, la mise en avant. Et du coup, je me suis dit non, il est plus prudent de ne pas recourir à ce schéma des trois ministères du Christ se prolongeant, il est plus sage de choisir une autre façon de procéder. Alors, je me suis contenté de quatre verbes. Et on essaye toujours d'avoir des sous-titres qui se correspondent un petit peu, qui est un certain parallélisme, hein, c'est une coquetterie de forme. Alors j'ai quatre verbes que je vous propose là très brièvement. Être, devenir, dire, faire. Ce sont les quatre points pour résumer le ministère que l'Église a à remplir dans le monde, ou comme on dit plus souvent peut-être, la mission de l'Église. Je vais commenter ces quatre verbes et les sous-points que j'ai écrits, mais brièvement, puisque le temps nous est compté jusqu'à 10h30, parce que je ne voudrais pas reporter sur une autre séance ce qui est prévu pour cette première étude. Je vous signale que je n'ai pas, sur cette première grande question, justement parce qu'elle est si grande, fourni une bibliographie très détaillée, parce que je n'en serais pas sorti. Donc je me suis contenté de très peu, page 6 donc de ce que je vous propose. J'ai une quinzaine de lignes sur la mission de l'Église, sur le ministère de l'Église au sens subjectif. Je vous propose d'abord de considérer le volume officiel issu du congrès de Lausanne 74, 74 pour les Suisses qui sont parmi nous, les Belges, de recourir à cet ouvrage comme à la mine de renseignements, où vous trouverez pratiquement tout, même si ça commence à dater, c'est encore très actuel. Je l'ai ici, ce volume, et vous allez peut-être vous dire, en le voyant dans ma main, mais il doit y avoir une faute de frappe. Ça doit être 471 pages. Non, non, c'est bien 1471 pages. Seulement, c'est du papier bible tellement fin, okay. Mais c'est vous dire, hein, un livre de presque 1500 pages. Vous en avez de la matière, là. Donc, ça peut être d'ouvrage de référence. Bon, il n'est pas traduit en français, hein, c'est l'ouvrage de référence en anglais. Mais je vous le recommande. Alors bien sûr, associé à ce livre, là je ne l'ai pas écrit, tout ce qui a été produit par le mouvement de Lausanne, issu donc de ce congrès. Il y a eu des consultations diverses sur plusieurs aspects de la mission de l'Église dans le monde. Ça tourne toujours autour de cette question pratiquement. Diverses consultations, puis il y a eu le manifeste de Manille du congrès Lausanne 2, qui a eu lieu aux Philippines. Il y a eu des travaux aussi alors du groupe français, il y a un comité maintenant français de Lausanne qui s'est constitué, qui a organisé en octobre dernier une consultation à Valence. Il y a eu certains rapports dans des magazines chrétiens. Donc vous avez tout un flot, quelque sorte, de textes plus ou moins longs tournant autour de la question et qui a été produit, qui sort comme de sa source du mouvement de Lausanne. Alors ça, c'est première référence. Je signale un certain nombre d'ouvrages dans la collection Alliance de Sator, mais cette collection Alliance est encore en vente pour les volumes qui ont paru autrefois. Elle ne continue pas quant à des titres nouveaux. C'est assez providentiel, c'est assez extraordinaire. Je peux vous le dire comment le stock de Sator qui avait faillite, qui avait été récupéré par un vendeur de vieux papiers, vous savez, séculier, a pu être racheté par les chrétiens évangéliques, en fait, par la nouvelle maison d'édition Excelsis, et a pu donc être remis sur le marché. Donc il y a encore des ouvrages disponibles. Cette collection Alliance était dirigée par M. Jacques Buchold, que vous allez entendre dans un autre cours, et c'est lui qui a fait aussi la traduction, l'adaptation de pratiquement tous les volumes, outre celui, le volume Rotsi remarquable qu'il a écrit lui-même sur le pardon et l'oubli. Alors, concernant notre sujet, vous avez donc plusieurs titres que je signale qui peuvent être intéressants. Je pense que Michael Griffith, qu'on a entendu au Centre évangélique il y a quelques années, est aussi un auteur très, très typique et puis extrêmement vigoureux sur les sujets qui nous occupent. Alors, je cite deux de ses ouvrages. Malheureusement, je vous avoue que je ne les ai pas sous la main et pas la bibliothèque, donc je n'ai pas pu donner tous les renseignements que normalement nous exigeons des étudiants dans les dissertations. La date d'édition, je ne l'ai pas, en fait, en français. Et puis je mentionne un vieil article à moi, mais qui peut encore vous intéresser éventuellement. Vous pouvez, je pense, le trouver à la bibliothèque, dans la collection de la revue Études évangéliques, qui était la revue de l'ancienne faculté de théologie protestante d'Aix-en-Provence. Voilà donc ce que je vous ai indiqué en bibliographie pour le sujet de ce matin. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout proposer une pensée qui vous viendrait, ou demander un éclaircissement. Personne ne veut user de cette liberté maintenant, mais usez-en ensuite, n'est-ce pas? Alors, je passe maintenant aux quatre grands points par lesquels je propose de définir le ministère de l'Église dans le monde. Et je vous surprends peut-être en commençant par être. Oui, en y réfléchissant, je me suis dit que le premier service que remplit l'Église, c'est d'exister. Et il y a un prix aux yeux de Dieu et pour le bénéfice du monde, à la seule existence de l'Église. Dieu veut la faire être dans cet univers. Cette existence n'est pas un simple fait brut comme ça. Elle est très importante pour le bien du monde. C'est un service qu'elle rend, simplement d'être là. Et son premier effort sera, pour reprendre une formule classique en histoire de la philosophie, de persévérer dans son être, de continuer d'être, si vous préférez. Alors, à quoi correspond cet accent sur l'être de l'Église? D'abord, à une contestation de ce que j'appelle fonctionnalisme. Et ce n'est pas le seul aspect, en fait, je vais développer un tout petit peu. Critique, en quelque sorte, de la réduction de l'Église à sa mission, à la fonction qu'elle va remplir. Il est important de dire, il faut qu'elle soit d'abord, avant que l'on considère quelle est l'activité qui lui est assignée, et quelle chose elle a à faire, que l'Église soit. Il y a une tendance qui a triomphé dans les cercles du mouvement écuménique, du Conseil écuménique des Églises, qui a tendu à réduire l'Église à sa mission, en disant l'Église est mission. L'Église n'a pas seulement une mission, elle est mission. C'est, dans les termes au moins, une réduction de l'être à la fonction. On conteste l'idée qu'il y ait quelque chose de précieux qu'il faille maintenir dans le simple être. On dit non, tout est dans la fonction. L'Église est mission. C'est d'abord très sympathique. On se dit, mais oui, voilà, il faut être pour la mission, il faut avoir l'esprit missionnaire, donc c'est très beau de dire ça. Et c'était spécialement associé à un ecclésiologue et missiologue, je ne sais pas comment il faut dire, néerlandais, il s'appelait Hoekendijk. Ça se prononce comme ça en hollandais. H-O-E, c'est Hoe. Hoekendijk, qui a été très écouté dans les rangs du mouvement écuménique. Et moi, je trouvais ça assez sympathique, comme ça, jusqu'à ce que j'ai entendu un exposé du professeur Bierhaus, Peter Bierhaus, qui est un évangélique, qui est professeur à l'université de Tübingen, qui estimait, lui, qui est spécialiste de ces questions, que c'est à partir de ce déplacement d'accent, de ce déplacement fonctionnaliste, l'Église est la mission, que le Conseil œcuménique a déraillé sur la question de l'Église. Et il m'a fait réfléchir. J'ai avec moi-même son texte. Il a dû le publier aussi, mais je ne l'ai pas sous forme publiée, je l'ai sous la forme de la reprographie pour le congrès auquel j'assistais, où je l'ai entendu, le professeur Bierhaus, faire cette analyse, et elle m'a semblé convaincante. Eh oui, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas simplement se laisser prendre à une idée parce qu'elle plaît, que l'intention semble bonne. Et ce qui se cache, outre le fonctionnalisme, cette tendance de la modernité à tout réduire aux fonctions, ce qui se cache derrière, c'est aussi l'universalisme. Je ne le dis pas, mais en fait, c'est en cause aussi. Si on dit l'Église est, alors on fait une distinction entre l'Église et le monde. On lui donne un être à part. Si on dit elle est mission, alors en fait c'est une activité, mais il n'y a plus, quant à l'être, que le monde. En fait, ce slogan, l'Église est mission, c'était une manière subtile pour l'universalisme de dominer la pensée. Il y a le monde, c'est la seule réalité ultime, le monde qui est sauvé par Dieu, et puis il y a une activité qui est la mission qu'on appelle l'Église pour que tout le monde en prenne conscience. Donc, c'est une stratégie subtile de réduction de la différence Église-monde qui est en cause. Et pourquoi je suis amené à dire, il faut insister sur ce verbe être, pour commencer lorsqu'on pense au ministère de l'Église, ministère pris au sens large, puisqu'il ne s'agit pas là de son activité, de ce qu'elle accomplit, mais du fait premier qu'elle est là. Cet accent contribue, me semble-t-il, à glorifier l'œuvre de Dieu. En disant, la première chose à mentionner, c'est que l'Église est et qu'elle doit continuer dans son être. En disant cela comme la première chose, on souligne que ce qui importe, c'est l'œuvre de Dieu, dont l'Église est le fruit, le résultat, qui importe bien plus que tout ce que nous avons à faire, nous-mêmes. Ce que nous avons à faire compte, Dieu nous le commande, mais c'est second. Ce qui importe d'abord, c'est que Dieu ait agi, et qu'il agisse, et qu'ainsi l'Église soit. L'Église est issue de l'œuvre divine. Elle est d'abord le produit et l'objet de la grâce de Dieu, avant d'être l'instrument d'œuvres diverses. Et alors, une pensée plus difficile, j'ai du mal moi-même à la cerner, mais je crois pourtant quand même que je peux vous la proposer. Il me semble qu'on peut dire que, dans la mesure où l'Église est de manière distincte, elle représente le monde. Elle peut jouer un rôle à l'égard du monde qu'elle ne jouerait pas si on réduisait tout à des fonctions. Parce qu'elle a un être propre, elle peut intercéder au sens étymologique du terme. Intercéder veut dire se placer entre. Avancer, comme dans procéder, succéder, avancer entre. Et ça implique bien sûr qu'elle peut présenter aussi le monde au Seigneur dans la prière. Mais c'est pas seulement la prière. C'est dans son être qu'elle est intercédante. Dans son être même, l'Église effectue une intercession. Et là, j'ai pensé, analogie, à la fameuse prière d'Abraham, au dialogue entre le Seigneur et Abraham, en Genèse 18, aux justes dans la ville qui vont permettre au Seigneur d'épargner la ville, s'il y en a assez. S'il y a 10 justes, détruira-t-il la ville? Non, s'il y a 10 justes, non. Et il me semble que c'est de cette manière, par son être, que l'Église remplit un ministère d'importance décisive pour le monde, par sa présence dans le monde. Elle permet que la patience de Dieu continue de s'exercer que le monde ne soit pas frappé comme il mériterait de l'être d'emblée. Vous voyez l'aspect d'intercession que j'ai en vue ici. Et dans cet aspect d'intercession, il y a peut-être une affinité avec le ministère sacerdotal. Bon, je vous pose ça comme une question. Et puis je dis aussi « et préfigurant ». Vous voyez, j'ai utilisé un style télégraphique, je ne dis même pas ce que l'Église préfigure dans son être et par rapport au monde. La pensée que j'ai à cet égard, c'est que l'Église n'est pas seulement distincte du monde dans son être, elle constitue aussi les prémices de la nouvelle création. Elle est le monde comme il sera renouvelé, recréé. Le monde à venir que nous attendons n'est pas simplement un autre monde que le monde présent. C'est ce monde recréé, passé par le bain purificateur du feu et bénéficiaire d'une sorte de résurrection. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est ce monde recréé, régénéré. Pour ça d'ailleurs que le mot de régénération est employé par le Seigneur Jésus, au temps de la régénération, non pas des individus, mais cosmiques. Et l'Église est donc, dans sa distinction d'être, la préfiguration de ce que le monde doit devenir dans la régénération. Elle est une figure de promesse pour le monde. Disons le sens de l'histoire. Vous voyez toute la richesse que je vois, en tout cas que je crois percevoir dans ce thème de l'être de l'Église par rapport au monde. Alors d'être à devenir, la distance n'est pas très considérable, mais quand même. Il ne s'agit pas seulement de persévérer dans son être, mais de devenir ce qu'elle est, parce qu'elle ne l'est pas tout à fait. Si vous préférez, de croître, de s'édifier, ce thème qui est si fortement mis en valeur dans les épîtres de Paul et dans le chapitre que nous avons lu en particulier. L'Église est appelée à s'édifier. C'est apparemment le ministère qui lui revient. Sans doute parce qu'elle est insérée dans l'histoire, que l'histoire est une réalité positive dans la perspective biblique en général. L'Église n'est pas donc créée en une seule fois, c'est achevé, c'est fini. Ce n'est pas une pure essence à la manière des idées de Platon qui subsisterait intemporellement. C'est un être historique, donc qui devient, et pour lequel le passage du temps a du sens, elle croit dans l'histoire. Croit avec accent circonflexe. Et alors, deux aspects principalement qui sont dans les textes du Nouveau Testament. La question de la croissance quantitative et celle de la croissance qualitative. Croissance en nombre, croissance en sagesse et en grâce, en connaissance, etc. Alors à propos de la croissance en nombre, je mentionne juste des points qui pourraient être évoqués, élaborés. J'ai lâché le mot de prosélytisme. Devons-nous renoncer au prosélytisme ou affirmer au contraire le bon droit et la nécessité du prosélytisme? C'est un débat aujourd'hui, un débat qui est truqué parce que les définitions du mot varient. Le discours dominant, dans la chrétienté en général, pas parmi les évangéliques, mais le discours dominant, c'est que le prosélytisme, c'est très très mauvais, que vraiment c'est indigne, surtout pas de prosélytisme. Alors parfois, la définition qui est associée, lorsqu'on nous donne une définition, implique qu'en effet, le prosélytisme est une chose que personne ne pourrait défendre. Il est défini comme l'effort pour attirer des membres dans son propre groupe, par des moyens de pression psychologique, d'intérêt matériel, et etc. Alors quand on définit le mot prosélytisme comme ça, d'accord, tout le monde, je pense qu'il serait vraiment difficile de défendre le prosélytisme. D'accord, il est à exclure. D'accord, il est arrivé que des chrétiens bien intentionnés tombent dans ce mauvais prosélytisme, et repentons-nous à ce propos, etc. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment le sens normal du terme, le sens traditionnel, le sens qui correspond à l'étymologie, etc. Moi, je dis non, non. Cette idée de moyens indignes mis en œuvre pour gagner des convertis n'est pas dans le sens du mot. C'est ce qui caractérise un mauvais prosélytisme, mais on peut en concevoir un bon. Le prosélytisme en lui-même, c'est simplement l'effort pour persuader d'adhérer à ce qu'on croit vrai et au groupe qui est caractérisé par ses convictions, ceux qui n'en sont pas encore persuadés. Il me semble qu'on peut dire que c'est ça le prosélytisme, dans sa définition ancienne, normale. Et à ce moment-là, alors, il me semble qu'il faut dire que le prosélytisme, ce n'est pas toute la mission de l'Église, que le prosélytisme, c'est peut-être un aspect, et si on se concentre trop, c'est réducteur, mais que c'est quand même ce que le Nouveau Testament nous engage à pratiquer aussi. On ne peut pas y renoncer. Voilà comment je prends position. Bien sûr, il y a des enjeux théologiques très très importants. C'est la possibilité d'un salut sans rapport à Jésus-Christ qui est en cause tout spécialement. Alors je n'entre pas dans ce grand débat, d'ailleurs, dans d'autres sessions d'université d'été, les sujets ont été étudiés à propos des religions non chrétiennes. Je crois qu'un chrétien évangélique ne peut pas concéder que des religions non chrétiennes seraient des voies de salut authentiquement devant Dieu, et donc qu'il doit faire ce que les autres appelleront prosélytisme, et contre quoi ils réagiront parfois avec indignation, en disant que c'est de l'intolérance, de l'impérialisme culturel, etc. Voilà comment, sur ce point, je caractérise les choses. Tendance à la church growth. Alors, church growth veut dire croissance de l'Église. Et il y a une école qui a son centre en Californie, qui est liée à la pensée d'un auteur assez génial, appelé McGavran, Donald McGavran, qui a pris ce nom d'école de la croissance de l'Église, Church Growth, avec beaucoup d'influence dans le monde. Qu'est-ce qui la caractérise? Il me semble, si je simplifie, peut-être trop, mais bon, tant pis, il faut toujours simplifier. Ce qui est propre à cette école de la croissance de l'Église, ce n'est pas de dire l'Église doit croître, c'est un message suffisamment ancien, mais c'est de dire l'Église doit croître et il faut qu'elle se donne les moyens, les stratégies voulues pour croître, qu'elle étudie le problème en appliquant une raison systématique à la question des moyens, qu'elle n'hésite pas à mettre en œuvre ce qui réussit pour la croissance de l'Église. Il me semble que c'est ça ce qui est la note distincte. Au lieu de dire l'Église doit croître, donc que chacun rende témoignage, prions le Saint-Esprit qui nous donne un réveil, ce qui est la façon classique de dire l'Église doit croître, l'école de la Church Growth dit bon, l'Église doit croître, nous sommes appelés à une obéissance intelligente, Dieu nous rend responsables, nous devons étudier les moyens. Est-ce qu'une Église monoculturelle croît plus vite qu'une Église pluriculturelle? Par exemple, une Église qui est faite uniquement de Haïtiens à Paris, est-ce que ça croît plus vite une Église qui a des Haïtiens, des Congolais, des Français, etc. Faut voir. Si c'est l'Église monoculturelle qui grandit le plus vite, alors faisons des églises de cette sorte. N'hésitons pas. Adoptons des stratégies. Proposons-nous des buts. Voyez. C'est, me semble-t-il, cette attitude mentale qui caractérise l'école de la Church Growth. Et je suis d'avis pour ma part qu'il ne faut pas réagir trop vite. Pas dire trop vite oui ou non. Que sur le point précis monoculturel, pluriculturel, j'ai vraiment des regrets par rapport à ce qui me semble un témoignage qui honore le Seigneur dans la pluralité culturelle d'une église locale. Mais c'est un peu trop facile aussi de dire, alors je rejette. L'idée qu'il y a une réflexion de type stratégique concernant les moyens, pour nous ça fait très américain. Cette idée-là, je ne crois pas qu'elle soit à rejeter. Lorsque je faisais partie du comité de Lausanne, justement, j'étais là, je me suis frotté avec plusieurs personnes qui étaient de ce courant. Et j'ai appris à respecter davantage, je dirais, à respecter au plan spirituel cette attitude. Il peut y avoir quelque chose d'irresponsable, d'un peu puéril, dans cette façon pour nous de négliger l'aspect des moyens à mettre en œuvre. En disant, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Bien sûr, c'est le Seigneur qui s'en occupe, mais il nous confie aussi une tâche de réflexion. Donc, je n'en dis pas vraiment plus, mais je vous indique au moins l'orientation que j'adopterai sur ce point précis. Quant à la croissance qualitative, d'abord je rappellerai un bon mot, mais profond spirituellement, d'un orateur qui venait d'Argentine au congrès de Lausanne, disant à propos de son église, c'est un pentecôtiste, qu'elle avait beaucoup grandi numériquement, et qu'il se disait, voilà, mon église a grandi, et puis que le Seigneur lui a montré que non, elle avait simplement grossi. Bon, je pense que c'était très, très justement dit. La croissance numérique, c'est pas seulement ce que Dieu a en vue. Croissance qualitative qui est très très fortement mise en valeur par le texte d'Éphésiens 4 que nous avons lu. Avec, me semble-t-il, deux accents qui sont à prendre ensemble. Il y a la croissance en fidélité, selon les dons divers qui sont faits en compétences pratiques, en engagement, mais il y a aussi la croissance en connaissance organisée, en justesse doctrinale, en fermeté pour n'être pas entraîné par toutes les séductions de l'adversaire, tous les courants de pensée, tous ces vents de doctrine, très jolie expression. Ces deux accents sont vraiment les deux accents, me semble-t-il, les plus forts dans le Nouveau Testament. Et ça m'a rappelé un autre jeu de mots en anglais, mais je pense qu'il y a plusieurs parmi vous qui parlent anglais, donc je me suis dit, oh, c'est un si joli jeu de mots en anglais, ça marche pas bien en français. Et je l'ai lu une fois. Il y a ardor and order. L'ardeur, la ferveur, l'engagement, etc. Et puis l'ordre, le bon ordre qui est d'abord doctrinal. Ces deux mots font vraiment la paire de ce qu'il faut viser sans sacrifier l'un à l'autre. Dire, c'est la médiation de la parole si importante dans toute la Bible qui est en cause. Oui, monsieur, oui.
S'agissant de la croissance en nom, puis la croissance en sagesse, est-ce que l'Église n'a pas privilégié un milieu? Je vais parler de la croissance en sagesse et en grâce.
Tout dépend ce que l'on considère comme l'Église. Je dirais, dans la diversité de la chrétienté, on trouve les deux excès. Ce qui me paraît difficile, c'est de joindre les deux. Mais il y a des groupes qui ont mis tout l'accent sur la ferveur et avec très peu d'approfondissement doctrinal et de fermeté à cet égard, et qui croissent numériquement très fort. Et puis vous avez d'autres églises qui effectivement font plutôt de la stagnation du point de vue du nombre, en mettant tout l'accent sur une rectitude doctrinale. Donc, moi, il me semble que si je veux considérer globalement en réponse à votre question, je dirais, il y a peu d'églises qui soient bien équilibrées à cet égard. Il y en a quand même. Mais on voit des excès dans l'un et dans l'autre sens, selon le côté où l'on regarde. Alors dire, c'est tout le rapport à la parole, la mission de l'Église, me semble-t-il, est d'abord de porter cette parole dans le monde. Je cite juste un verset dans le canevas, parce que je crois y trouver ce thème, et qu'on ne l'y voit pas souvent, que bien des gens passent sur ce verset sans les remarquer, mais bien sûr il y aurait beaucoup d'autres passages. Dans 1 Timothée 2,6, Paul parle de son propre ministère, il dit qu'il a été établi comme prédicateur et apôtre, et au verset juste précédent, verset 6, il parle du message central de Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour un grand nombre, le témoignage pour son propre temps, ses propres temps. Pourquoi dire pour ses propres temps? À propos de ce message central dont nous rendons témoignage. Réfléchissant là-dessus, je me suis dit, c'est parce que le sens même du temps dans lequel nous sommes, du temps qui va de la Pentecôte au retour du Seigneur, c'est d'être le temps du témoignage, où la parole de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et du salut qu'elle rend possible pour tous, cette parole-là est proclamée, diffusée. Pourquoi y a-t-il ce temps dans le plan de Dieu? Parce que la parole de l'accomplissement par Jésus-Christ doit être attestée partout. Sans quoi, cette période pourrait être abrégée. Voilà la suggestion. C'est le propre temps pour le témoignage. Alors, associé à cet accent sur la priorité de l'évangélisation, j'évoque deux points, mais je vous ai dit que nous n'irions pas jusqu'au bout du canevas en détail, alors. Un point qui est intitulé « Proclamation et apologétique ». Il me semble qu'il y a deux pôles dans la tâche prophétique de transmission et d'attestation de la parole par l'Église. Elle a d'une part à annoncer les faits qui se sont produits. Pure proclamation. Et il ne faut pas qu'elle oublie que c'est là. D'abord ça, c'est une bonne nouvelle qu'elle annonce. Ça a eu lieu. Mais en même temps, elle essaie de persuader. De persuader ceux auxquels la proclamation est faite, d'y croire, d'y adhérer, de changer ainsi de voie. Et ça correspond à ce qu'on appelle classiquement l'apologétique. Les efforts de persuasion, et avec de bons arguments, qui tentent de toucher là où ils sont, avec leur manière de penser, les gens auxquels on s'adresse. Alors je crois qu'on ne peut pas sacrifier tout à l'un ou l'autre de ces pôles. Dans la prédication de l'Église. L'Église ne doit pas se laisser complètement absorber par la tâche argumentative en disant il faut que je réussisse à persuader. Non, d'abord elle n'y arrivera pas, et puis d'abord elle atteste que quelque chose a eu lieu. Mais si elle s'intéresse aux gens en les prenant où ils sont, elle fera quand même aussi un effort de persuasion. C'est trop facile de dire je proclame, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas s'intéresser vraiment aux gens, ce n'est pas les aimer que de ne pas se soucier de ce que j'appelle ici apologétique. Donc, une polarité ici. Et puis, interpellation des autorités, ce que certains appellent témoignage prophétique, moi je pense que ce serait très réducteur de réduire l'aspect prophétique à cela, mais que l'Église dans sa parole, comme les prophètes de l'Ancien Testament devant les rois, les puissants, interpelle les responsables de la vie sociale, leur rappelle les normes de Dieu, celles qui sont tellement fondamentales que même dans un État laïque, il y a lieu de les rappeler. La dénonciation des fléaux les plus évidents. Ça aussi, ça. Mais c'est assez délicat à traiter, je le mentionne comme un point important. Vous en reparlerez peut-être avec M. Blard. Et enfin, l'Église est celle de la terre en même temps que lumière du monde, une distinction que John Stott aime beaucoup mettre en valeur. L'Église a un service actif à accomplir, luttant contre le mal, affinité avec le ministère royal dans ce sens, triomphant du mal, délivrant ceux qu'on emmène à la mort. Alors, il y a eu un débat, en particulier dans le cadre du mouvement de Lausanne. J'ai assisté même parfois à des séances un petit peu tendues, entre ceux qui disent, il y a une mission de l'Église qui comprend cet aspect-là. C'est la mission d'Église. Puis d'autres qui disent, non, la mission d'Église, c'est d'évangéliser. Alors, il y a aussi une autre tâche qui vient après, qui est celle de ce service actif, etc. Je pense que c'est une question de dosage, mais bon, c'est pas sans enjeu, je mentionne simplement le débat, en distinguant ensuite trois formes de ce service. Les œuvres sont un témoignage qui rendent crédibles les choses dites. Il est sûr que le grand reproche que font nos contemporains autour de nous, c'est de dire des chrétiens et des églises. Les églises ne suivent pas ce qu'elles prêchent. Elles ne le réalisent pas. Et puis alors, deux grandes façons d'accomplir ce service, le caritatif et le politico-culturel. Selon une distinction que Ricoeur a introduite il y a déjà pas mal d'années, des relations courtes et des relations longues, c'est lui qui a forgé cette expression. Nous sommes en rapport avec les autres humains, selon les relations courtes, nous les rencontrons, sont nos voisins, nous donnons un coup de main, nous prenons un clochard pour le conduire à l'asile où il aura de quoi passer sa nuit, etc. La relation courte. Mais il y a aussi les relations, en quelque sorte, indirectes, via les grandes structures de la vie en commun. On peut, là, venir au secours de ses voisins, sans même leur parler à eux, mais en favorisant telle législation, tel système scolaire, plutôt que tel autre. Relations longues, action dans la cité, action politique, mais aussi culturelle, parce que souvent, il faut influencer les mentalités avant de pouvoir rendre efficace une mesure politique donnée. Et on influence les mentalités par des argumentaires précis, mais aussi, par exemple, par un mime symbolique qui sera réussi, par une œuvre picturale qui frappera les esprits, qui les orientera. Action culturelle très diversifiée. Peut-être que les études sur Van Gogh ouvriront quelques perspectives aussi à ce propos. Vous voyez donc la grande palette de ce qu'il est possible de faire, à quoi l'Église est appelée, mais je n'entre pas dans le détail puisque l'heure est maintenant arrivée.